Ouais, du coup, je voulais commencer par vous présenter très rapidement la discussion qu'on va avoir ce soir et surtout pourquoi on a décidé d'avoir cette discussion autour du confusionnisme et des théories complotistes. On a été un certain nombre à entendre de plus en plus parler depuis quelques temps d'un certain nombre d'idées comme les histoires de Shame Trail ou de Chemtrail. Des théories complotistes autour du 11 septembre ou autres. Et puis, petit à petit, on a aussi entendu d'autres théories un peu plus politiques autour de la démocratie directe, de théories comme l'idée d'un tirage au sort ou d'écrire une nouvelle constitution. Et bon. Ça nous posait déjà un peu question. Et puis ensuite, plus concrètement, on a vu sur les luttes autour du soutien à Rémi Fraisse par rapport à la ZAD à Sivens, là où donc le jeune qui s'est fait tuer par la police, là. Il y a eu un mouvement un petit peu sur Alès, entre autres, hein, où il y a eu des AG assez importantes et des manifs assez importantes aussi. Et dans ces AG, il y avait des militants assez actifs, dont on a découvert assez rapidement qu'ils faisaient partie d'une organisation qui se présentait comme anti-pédophile, mais qui sortait aussi des affiches clairement antisémites et anti-francs-maçons. Un truc qui s'appelle Peuple de France, réveille-toi, ou un truc comme ça, et qu'on a du coup, on a été plusieurs à pas vouloir qu'ils participent au mouvement avec nous. Et puis, ça a continué sur plusieurs discussions qui ont eu lieu ici, en particulier la discussion sur la Palestine, si je me souviens bien, et à la suite des attentats au Bataclan et sur l'état d'urgence. Où il y a eu plusieurs interventions qui n'étaient pas clairement antisémites, mais quand même, il y avait un complot, on ne savait pas trop de qui, quoi, mais enfin, ça tendait quand même vers ce genre d'idées. Ou alors des interventions plus patriotes, qui étaient ce qu'on appelle interclassistes, qui développaient l'idée qu'au fond, les petits patrons, ils peuvent être de notre côté aussi, et en tout cas que toutes les classes peuvent agir en commun. Et puis là, récemment, donc il y a les Nuits debout qui sont lancées un peu dans la foulée du début de la lutte contre la loi travail. Et à Alès, on a clairement, à partir de la première nuit debout, on a vu un groupe qui arrivait de manière coordonnée et qui, avec un truc tout fait, à vouloir faire des commissions, à vouloir absolument faire une commission pour réécrire la Constitution, entre autres. Petit à petit, au cours des discussions, en fait, ils avançaient des idées qui sont liées à une personne qui s'appelle Étienne Chouard. Et apparemment, c'était un groupe assez constitué autour de ce truc-là. Et y en a qui sont même... Enfin, ils défendaient clairement les idées de Chouard. Et puis d'un autre côté.
Plus tard ce que c'est, je crois.
Oui, tout ça, je ne vais pas le développer moi.
Ce sera largement expliqué. Ouais.
Ouais. Et puis d'un autre côté, on a vu aussi un groupe qui s'appelle Colibri, qui est intervenu de plus en plus dans la région, qui est lié à une personne qui s'appelle Pierre Rabhi. Par exemple, ils ont aussi demandé à faire des réunions ici, à la Rétive, à un moment donné. Du coup, on s'est penché un peu plus sur qu'est-ce que c'était que ces colibris et Pierre Rabhi. Et on a découvert que c'est pas si reluisant que ça. En tout cas, bon. En tout cas, ça demandait clarification, tous ces éléments-là. Il n'est pas question ici de tout mélanger et de dire que toutes ces théories, c'est des fascistes et c'est tout. Ce serait rapide et puis il faut. Mais il y a quand même un certain nombre de choses en commun qui se retrouvent. Le fait souvent avancer masqué, de ne pas dire clairement de quelles idées on défend, quel groupe ils appartiennent ou autre. Le fait de défendre des positions interclassistes, souvent nationalistes ou patriotiques, de reprendre des idées qui sont souvent perçues comme des idées d'extrême gauche, mais en cachant des idées qui sont ultra réactionnaires souvent. Et par exemple, une lutte contre l'oligarchie. Bon, ça pourrait paraître un point de vue d'extrême gauche ou révolutionnaire ou autre. Souvent, quand même, derrière le mot oligarchie, très rapidement vient l'oligarchie juive. C'est quand même des choses qui arrivent assez rapidement. Alors, c'est pas pour dire que tous les gens qui utilisent ce terme, ils sont antisémites, mais enfin, il y a des questions à se poser en tous les cas. Et du coup, la copine qui fait le site confusionnisme.info, qu'on a invité, elle va essayer de démêler un peu tout ça, toutes les théories, ces théories complotistes et confusionnistes, et cerner leurs liens plus ou moins forts avec l'extrême droite, souvent en plus la plus radicale. Donc je crois que tu vas parler des théories complotistes, comme les chemtrails et autres, des théories de Chouard et de ses liens avec Soral et avec l'extrême droite, des colibris et de Pierre Rabhi et d'une secte qui s'appelle l'anthroposophie. Et voilà. Donc juste une dernière chose, je pense que personne ne veut le faire, mais pas de photos ni de films. Il y aura un débat après. Ce sera l'occasion de discuter plus.
Merci. Donc, attendez, je règle un peu mon micro, voilà. Oui, donc du coup, t'as donné un peu les grands axes. Moi, je vais plus particulièrement parler d'Étienne Chouard et de Pierre Rabhi. Et puis après, on pourra aussi aborder dans la discussion les autres questions. Peut-être pour commencer, définir les concepts. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie du complot? Bien évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a jamais de complot. Hein. C'est pas du tout ça. C'est une vision, en fait, complotiste du monde, c'est-à-dire qui voit le complot un peu partout, en fait. Et c'est des théories qui, en fait, sont complètement désarmantes, puisque si le complot est partout, finalement, à quoi bon lutter? Et on est tous dans le complot. Et du coup, c'est même en termes de lutte sociale, il faut s'interroger un peu aussi sur l'influence de toutes ces théories, finalement. Donc ça c'est pour la théorie du complot. Pour le confusionnisme politique, alors le terme peut être discuté, évidemment. C'est un terme que moi et d'autres on utilise, qui nous semble en tout cas être le plus, enfin, qui décrit bien l'idée, quoi. C'est-à-dire le fait de tisser des ponts entre des franges politiques qui ne devraient rien avoir à faire ensemble. Par exemple, l'extrême droite, l'extrême gauche, la gauche, la droite. Enfin, ça, la gauche, la droite, ça fait même au niveau. Enfin, c'est vrai que quelque part, par exemple, le manque de différence entre les politiques menées par l'EPS ou les Républicains, c'est aussi une forme de confusionnisme politique. C'est pas forcément celle qui est le centre de mon intérêt. Moi, je m'intéresse plus aux groupuscules et aux choses comme ça. Mais voilà. Alors, en fait, il y a de plus en plus de thématiques qui se prêtent, en fait, à ces confusions. Alors, sur l'anti-impérialisme, par exemple, sous prétexte d'être anti-guerre, on va soutenir des dictateurs comme Bachar el-Assad ou des régimes autoritaires comme celui de Vladimir Poutine. Comme s'il y avait un camp à choisir dans des conflits entre nationalistes, par exemple en Ukraine, quoi. En Ukraine, il y avait des combattants fascistes des deux côtés. D'ailleurs, des mercenaires français, il y en avait des deux côtés. On ne va pas choisir son camp quand même entre l'un et l'autre. Il y a l'écologie, ça c'est un gros, un vaste débat sur lequel on reviendra. Mais après, bon, il y a d'autres thématiques. La Palestine, on en parlait avec la confusion, antisionisme, antisémitisme, qui est aussi un fait réel. Hein, c'est pas seulement un fantasme, il y a effectivement des antisémites qui avancent sous couvert de la critique de la politique de l'État d'Israël. Hein, c'est pas seulement quelque chose, de fantasmé. Sur l'Union européenne, évidemment, aussi, avec des alliances souverainistes de gauche, souverainistes de droite, y compris concrètes, hein, sur le terrain, des actions communes, des choses comme ça. Et donc, ça touche aussi non seulement à des actions de terrain, du fait de se retrouver ensemble pas toujours, enfin justement, pas forcément par inadvertance, parce qu'a priori, bon, sur une manif, on ne contrôle pas forcément qui vient, hein, qu'il y ait des gens qui viennent, qui se retrouvent là, à la limite, ça, ce n'est pas vraiment de la confusion, on ne peut pas empêcher les gens de venir en manif. Par contre, le fait de mener des actions communes entre groupuscules, par exemple souverainistes de gauche et de droite, ça prend tout de suite un sens politique. Le fait de signer des pétitions, par exemple, pour la liberté d'expression des négationnistes avec des négationnistes, ça prend un sens politique. C'est pas simplement je dîne avec un ami ou mon oncle vote pour le Front National, quoi. Ça relève de la vie privée, on s'en fout un peu. Donc voilà. Et donc il y a des rapprochements aussi théoriques, quoi, sur l'emploi des termes. Alors tu parlais d'oligarchie. L'oligarchie, il faut dire que c'est un terme qui était un peu tombé en désuétude, hein. Normalement, dans une analyse un peu de classe, on parle plutôt de bourgeoisie, on parle de lutte des classes, on parle de prolétariat. On parle pas d'oligarchie, ce qui veut pas dire grand-chose en fait. L'oligarchie, ça s'emploie à la limite en histoire antique, s'agissant des régimes politiques de certaines cités grecques, mais c'est le seul emploi rigoureux qu'on puisse trouver au terme. Et il se trouve que ce terme est revenu un peu à la mode à l'aune de la crise bancaire de 2008. Et qui c'est qui a remis ce terme à la mode ? Ben, c'est Jean-Marie Le Pen dans son discours d'Arras en mars 2009. Alors tout y était, tous ces mots qu'aujourd'hui on entend, il a parlé à la fois, il a employé quatre termes qu'on entend, en particulier trois, il a employé mondialisme, que l'extrême droite emploie comme un synonyme, on va dire, de mondialisation, mais aussi d'internationalisme pour discréditer l'internationalisme ouvrier, c'est-à-dire une confusion volontairement entretenue entre le fait qu'il y ait des multinationales qui s'organisent au niveau mondial et puis le fait que les ouvriers cherchent aussi à s'organiser par-delà les frontières. Et tout ça s'est regroupé sous le terme de mondialisme. Ça permet de dire qu'en fait, marxistes et ultralibéraux se rejoignent ou que libertaires et libéraux se rejoignent. Là, le jeu de mots est beaucoup plus facile à faire. Jean-Marie Le Pen, dans ce discours d'Arras, a parlé aussi de nouvel ordre mondial, pareil, de l'anglais New World Order, abrégé souvent NWO dans les trucs complotistes, et ou NOM en français, NOM. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on entend beaucoup. Bon, il a parlé d'hyperclasse mondiale, ça, on l'entend un peu moins, mais ça rejoint le concept d'oligarchie. Il a parlé d'oligarchie, il a surtout parlé aussi de bankster, qui est un terme qu'on entend beaucoup, qui est un jeu de mots entre gangster et bankster, de l'anglais. Sauf qu'en langue française, je ne sais pas quelle est l'histoire du mot en anglais, elle est probablement plus évidente, mais en français, cette histoire a une histoire bien précise. Le terme bankster a été inventé par Céline dans les années 30, puis repris par Léon de Grelle, qui fondera pendant la guerre la division SS Wallonie. Et donc, c'est associé directement à la finance juive. Donc là, on est en pleine théorie du complot sur le pouvoir des banques, et en particulier des banques juives. Et donc, c'était tombé complètement en désuétude, jusqu'à ce que Jean-Marie Le Pen l'emploie. Et à la suite de Jean-Marie Le Pen, un autre homme politique a aussi employé le terme. Vous pouvez faire une recherche sur son blog, vous le trouverez, Jean-Luc Mélenchon, qui court après le FN pour combattre le FN, ce qui est un peu parfois dans son vocabulaire, dans les termes qu'il emploie. Mais aussi Gérard Filoche parle de bankster assez régulièrement. Donc on a vraiment là une perméabilité des termes et des théories et des idées, quoi. Derrière, il y a aussi des idées qui passent malgré tout. C'est pas complètement anodin, c'est pas juste pour faire de la caricature et pour rigoler et pour... Donc là, les idées passent, et c'est les idées d'extrême droite, en fait, qui passent à gauche, puisqu'actuellement, on peut parler d'une hégémonie de la pensée réactionnaire, finalement. On n'est plus du tout dans une dominance progressiste. On a un retour de bâton réactionnaire, là, depuis plusieurs années. Donc forcément, ça peut aller que dans leur sens. Alors du coup, j'avais dit que j'aborderais plus particulièrement le cas d'Étienne Chouard et de ses colibris. Non, les colibris, excuse-moi, c'est Pierre Rabhi. Étienne Chouard, c'est Gentivirus et ses citoyens constituants, voilà. Donc Étienne Chouard, c'est un personnage qui s'est fait connaître au moment du référendum sur le TCE. À l'époque, il avait monté un blog où il démontait les articles du TCE. Il avait été extrêmement relayé au sein de la gauche, qui s'opposait à la gauche du non, en fait. C'était d'ailleurs, je crois, peut-être même le premier site déjà à l'époque consulté sur cette thématique, ou le deuxième. Enfin, c'était un des gros sites auxquels se référaient les gens pour critiquer ce TCE. Bon, à l'époque,
c'est quoi, TCE ?
Le traité constitutionnel européen, pardon. Donc c'était il y a une dizaine d'années, quoi. Et donc à l'époque, bon, quand il a fait son travail, tout le monde a jugé que c'était un travail plutôt sérieux. Et puis ça a servi de base d'argumentaire. Sauf que dans les années qui ont suivi, Étienne Chouard s'est mis quand même à déconner assez grandement, du coup, réfléchissant à l'Union européenne, au manque de démocratie, où il est venu à construire toute une pensée autour de la démocratie, du tirage au sort, etc., que je vais développer après. Mais il a aussi construit des liens avec l'extrême droite assez forts, sous prétexte de discuter avec tout le monde, de liberté d'expression, en rendant hommage à Alain Soral, à Jacques Cheminade, ou à Thierry Messant, du côté conspirationniste complotiste, justement. Et donc ça, c'est un truc qui a été pointé déjà depuis pas mal de temps par divers groupes antifascistes, c'est parti de là. Il se trouve qu'Étienne Chouard, à un moment, s'est quand même fait lâcher, au bout d'un moment, par pas mal de soutien qu'il avait encore à gauche, parce qu'il refusait de retirer un lien vers le site de Soral, sauf que le problème d'Étienne Chouard est beaucoup plus large que seulement un lien vers le site de Soral, qu'il a d'ailleurs remis en ligne dès le lendemain. Ça, c'est faux de dire, on entend souvent, oui, il est revenu sur son soutien à Alain Soral. Non, pas du tout. Dès le lendemain, il est revenu sur le retour en arrière, enfin, donc voilà. Et donc, tout ça paraît être des théories sympathiques. Hein. Les citoyens constituants, les antivirus, qui ça sont, je ne sais pas comment dire, ces adeptes ou ces fans, en fait, ces deux groupes d'adeptes ou de fans, Chouard étant un peu le gourou, puisqu'il y a aussi ce côté-là de culte de la personnalité, hein, qui se voit vraiment. Eh bien, ça paraît assez séduisant. Et bien, effectivement, pourquoi pas la démocratie directe, du tirage au sort plutôt que des élections. À première vue, quand on n'y réfléchit pas plus avant, on se dit c'est sympathique. Et puis pourquoi pas dans l'absolu. Sauf qu'en réalité, la vision qu'a Chouard du tirage au sort et de l'Assemblée constituante, c'est quand même assez particulier. C'est d'ailleurs profondément réactionnaire. Je vais me baser pour faire l'analyse de ce qu'il prône vraiment sur une vidéo qu'il a tournée en 2011. On le voit dialoguer avec Yvan Blot. Donc Yvan Blot, c'est un des penseurs du cercle de l'horloge, alors enfin du club de l'horloge, et ça c'est un think tank qui existe depuis très longtemps et qui construit des liens intellectuels entre la droite et l'extrême droite, mais qui est vraiment plutôt marqué extrême droite que droite. Et Yvan Blot a d'ailleurs navigué entre la droite classique et le Front National. Et donc, son tirage au sort, il nous présente ça, Chouard, et puis ses adeptes nous présentent ça sur le mode, ça va permettre, plutôt que d'avoir, en gros, les partis, les appareils, la bureaucratie, on va tirer au sort des citoyens au sein du corps électoral, et puis, on verra, ce sera sûrement plus démocratique, plus représentatif socialement, toutes les couches de la société seront représentées, etc., etc. Alors ça, c'est le discours officiel. En réalité, dans ce dialogue avec Yvan Blot, Chouard explique que tout le monde n'a pas vocation à être tiré au sort, parce qu'on risquerait de tirer au sort. Alors d'une part, il y a deux catégories qui n'ont pas vocation à être tirées au sort. Il y a la catégorie, on va dire, des gens que lui appelle l'élite, c'est-à-dire les gens très riches, les pontes des médias, les gens comme ça. Mais il y a aussi toutes les classes populaires. Puisqu'on sait bien que le peuple pris par ses passions vote mal. Enfin, ça, c'était des vieux argumentaires au 19e siècle pour défendre le vote censitaire. Donc, en fait, ce que Chouard nous propose, c'est une sorte de tirage au sort censitaire qui nous ferait une assemblée tirée au sort composée de classes moyennes, petits patrons, petits intellectuels, probablement, enfin, pour éviter les passions populaires. C'est vraiment ça. Donc, il suffit d'écouter ce qu'il dit dans cette vidéo. J'aimerais quand même arriver à conserver cette idée que ce soit des citoyens qui écrivent eux-mêmes leur constitution sans que ce soit n'importe qui pour qu'il y ait vraiment une qualité de la réflexion. On ferait en deux temps. Imaginez que dans un premier temps, chaque citoyen, malin ou pas malin, jeune ou vieux, riche ou pauvre, désignerait autour de lui deux ou trois personnes qu'il considérerait comme valeureuses. Les termes sont assez importants. Hein. Éclairées comme des honnêtes gens. Et c'est parmi ces gens valeureux que nous tirerions au sort. Et il pourrait y avoir un biais. Ceux qui ont été désignés très peu souvent ne pourraient pas être tirés au sort. Et ceux qui ont été désignés très souvent, peut-être par un effet médiatique, on ne les prend pas non plus pour garder les gens valeureux mais normaux. Alors là, plusieurs remarques. Enfin, on aura tous remarqué un peu le vocabulaire, mais c'est exactement, si on lit au 19e siècle des textes pour défendre le suffrage censitaire, j'en ai pas sous les yeux, mais enfin, on pourrait comparer. C'est à peu près du même degré, en fait. Et donc, il y a quand même un truc, évidemment, les gens qui n'ont pas été assez désignés, on peut penser quand même à toutes les catégories qui n'ont pas les ressources sociales pour à la fois ne pas être trop désignés, mais l'être suffisamment pour être élus. Donc forcément, les ouvriers, les chômeurs, les RSAS, mais aussi les personnes victimes de discrimination en tout genre, les homosexuels, les personnes victimes de racisme, probablement les femmes aussi. On sait très bien que les femmes, par exemple, sont moins à l'aise avec la prise de parole, subissent aussi elles-mêmes des discriminations. Donc on peut tout à fait penser qu'en fait, son assemblée ne sera pas représentative. Et alors, fort. D'ailleurs, il donne un chiffre. Le corps électoral français actuel est composé à peu près de 40 millions de personnes. Pour choir, il n'y a que 1 ou 2 millions de personnes sur ces 40 millions qui ont vocation à participer au tirage au sort. Donc, tout de suite, on est vraiment loin d'être dans une espèce d'idéal démocratique, en fait, où tout le monde aurait la parole et la possibilité de participer aux décisions collectives. Par ailleurs, il ne prévoit pas de supprimer, contrairement à ce qu'il dit, les élections. Non seulement il introduit de l'électif dans le tirage au sort, mais il maintient une chambre électorale. C'est marrant, d'ailleurs, il faut écrire la Constitution, mais Chouard a quand même une idée assez précise de la fin, déjà. Hein. C'est aux citoyens d'écrire, mais lui a déjà une idée assez précise. Et donc, il propose un système bicaméral, avec une chambre qui serait tirée au sort et une chambre qui serait dite la chambre des partis, en fait, avec une place aussi pour les experts et les juristes qui conseilleraient ces deux chambres. Alors là, c'est marrant aussi, parce que le discours anti-expert, anti-élite et tout, ben là, en fait, on mettrait des experts pour conseiller les élus ou les tirer au sort. Alors, du coup, s'agissant du pouvoir, entre guillemets, des lobbies, comme on aime bien le dénoncer, la question se pose quand même. Du coup, en quoi cette assemblée tirée au sort sera moins... perméable aux groupes de pression, etc., par rapport au système actuel, du coup, puisque... Donc, c'est tout à fait plein de contradictions. Alors, le tirage au sort, il faut notamment l'employer pour écrire une constitution. Le problème, c'est qui mettra en place cette assemblée constituante, qui ou quoi. Alors, c'est pas la révolution sociale qui va mettre en place l'assemblée constituante chez Étienne Chouard, c'est l'homme providentiel. Il résume ça, il faut un Chavez, il faut une personnalité à la fois forte mais juste, un Robespierre. Voilà, donc vous mettez qui vous voulez à la place de Chavez ou Robespierre, hein, mais il faut qu'il y ait une espèce d'homme comme ça, puis qui aurait suffisamment de valeur pour renoncer au pouvoir personnel et le confier, entre guillemets, au peuple pour composer une constituante. Enfin, on rêve, quoi. C'est un peu quand même, je sais pas. Et il est le premier à dire, d'ailleurs, que si les gens les hommes politiques participent aux élections, c'est bien pour être élu et pour exercer le pouvoir. Donc on rêve complètement. Voilà. Ensuite, il y a quand même dans cette vidéo aussi, il continue... Étienne Chouard est pour une société inégalitaire, méritocratique et élitiste, et il l'assume complètement. À un moment, Yvan Blot explique « Le référendum, puisque ces gens-là promeuvent aussi le référendum comme mode de gouvernement, le référendum est stabilisateur à condition d'avoir des grandes classes moyennes. Les pauvres ne prennent pas toujours des décisions très sages, tandis que la classe moyenne est dans le juste milieu. » Ben oui. Il faut que la démocratie soit enracinée dans les classes moyennes. Ce qui est terrible, c'est le prolétaire, car il n'a plus rien à perdre, étant donné qu'il n'a rien, le malheureux, et il peut être amené à des situations excessives. Et Chouard approuve. Il contredit Pablo, il approuve, il est là, il trouve ça très intéressant. D'ailleurs, plus loin, Chouard explique, et il le dit, ça c'est citation authentique, donc à deux reprises, « On a besoin d'inégalités pour que les gens aient des moteurs pour se donner du mal, et même peut-être de fortes inégalités. » C'est la vision du monde que nous propose Étienne Chouard. Il le répète plus loin, « Je suis d'accord sur l'idée d'admettre des inégalités, peut-être même importantes, parce que si quelqu'un est très utile et se donne beaucoup de mal, ok, alors d'ailleurs on va classer la société entre utile et inutile. » Voilà, enfin c'est quand même... Donc ça c'est l'idéologie d'Étienne Chouard. Il défend aussi le féodalisme, curieusement, non seulement la démocratie athénienne, qui n'était pas vraiment une démocratie, puisqu'elle était exclue du fonctionnement démocratique, on va dire à peu près, au moins 95% des habitants d'Athènes, hein, pour être, c'est-à-dire les femmes, les non-citoyens, les étrangers et les esclaves. Et puis, il y avait aussi des gens qui, sans doute, de fait, étaient citoyens, mais ne pouvaient pas participer, notamment probablement des paysans libres, qui, à Athènes, ça faisait 60 km de large, donc ils n'avaient pas le loisir de quitter leur champ pour aller participer aux assemblées de l'époque. Oui, ben les métèques, c'est les étrangers. C'est le terme qu'employaient les Grecs pour désigner les étrangers. Là, ça ne savait pas, d'ailleurs, c'est la connotation péjorative que ça a pris depuis. Et ? Oui, 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 aussi, mais les citoyens aussi. C'était un privilège citoyen d'être soldat, bref. Mais bon, Chouard, il n'y a pas que la Grèce qui l'intéresse. Bon, il y a aussi la Suisse. Il trouve que le référendum sur les minarets, c'est un bel exemple de démocratie et que c'est vraiment formidable. Et moi, une fois, je l'avais vu en conférence et du coup, j'avais poussé le bouchon. J'avais posé la question, est-ce que si le référendum revient, par exemple, sur le droit à l'IVG ou rétablit la peine de mort, la réponse était, le peuple l'a décidé. On pourrait d'ailleurs se demander si, par exemple, sur une question sur l'IVG, les hommes pourraient voter. Est-ce que ce serait démocratique que les hommes votent après tout, pourquoi pas. Enfin, si on veut pousser le bouchon. Mais du coup, et puis notamment, il promeut le le vote à main levée, il y a quelques cantons suisses ont voté à main levée. Comme par hasard, c'est les cantons les plus réactionnaires. Par exemple, ils ont accordé le droit de vote aux femmes en 1997. Et forcément, quand on voit ce que son voisin vote et que le voisin sait ce que vous votez vous, c'est évidemment, c'est pas tout à fait. Enfin, on va pas forcément être poussé à voter sur des positions autres que celles qui sont la pensée un peu dominante de la société dans laquelle on évolue, en fait.
Tu veux dire que le vote à main levée plutôt réactionnaire
en tout cas, dans ces cantons suisses, on le constate. Moi, je pense que l'isoloir, même si je ne suis pas une défenseuse de la démocratie bourgeoise, vous le comprendrez, je pense quand même que l'isoloir a représenté un progrès. D'ailleurs, au XIXe siècle, quand l'isoloir a été instauré, c'était aussi parce que les nobles emmenaient voter leurs paysans, quoi. Et les pays, tout le monde savait qui votait quoi. Et donc, on votait pour le noble ou le bourgeois du coin. Donc, oui, moi, pour moi, quelque part, effectivement, l'isoloir est un progrès et le vote à main levée. Alors, ça dépend quand on vote à main levée dans son organisation politique, mais ça n'a pas tout à fait le même sens. On ne va pas être forcément pris en ennemi. Mais là aussi, ça peut être un système de pression, le vote à main levée. En tout cas, dans une société plus large où il y a des opinions politiques très diversifiées, moi, à mon avis, et ça, c'est mon avis, hein, peut-être que les gens ne sont pas d'accord, je pense qu'effectivement, le vote secret est un progrès. Après, bon, on a plein d'autres manières de s'organiser que la démocratie bourgeoise. Voilà, on va en rester là sur ce point-là. Mais alors, Chouard, il défend aussi l'ancien régime. Hein, c'est formidable, l'ancien régime. Parce que selon lui, la noblesse et le clergé étaient des contre-pouvoirs aux riches et aux ultra-riches. Sous l'Ancien Régime, en fait, il faut voir que selon Chouard, c'était les financiers, les banquiers qui dominaient la société, et que la noblesse et le clergé étaient donc des contre-pouvoirs. Pour lui, la chute de l'Ancien Régime a donné aux seuls marchands et aux financiers tous les droits, dont celui de faire travailler les gens sans limite. Alors, je ne sais pas s'il se souvient de ce qu'était le servage, de ce qu'était la taille et de ce qu'était la gabelle, mais c'est quand même assez formidable, quelqu'un qui est capable d'analyser. Enfin, je veux dire, c'est même pas niveau d'école primaire, quoi. C'est vraiment, là, on tombe dans de l'idéologie. Non, mais même pas seulement, c'est de la bêtise. Là, oui, en partie, oui, quand il parle des financiers, mais c'est même une idéologie, là, pour le coup, il prône carrément le retour au féodalisme, quoi.
On est... Des catholiques qui ne s'occupaient pas d'argent, mais ceux qui s'occupaient d'argent, c'était les
gens. Pas seulement, oui, entre autres, mais évidemment que quand Chouard parle des financiers et des banquiers, il vise entre autres les juifs, puisqu'on sait bien, par ailleurs... ce que Chouard dit sur les juifs, les protestants, enfin, il est en plein complot là-dessus, et puis il fréquente des antisémites. Il promeut des négationnistes sans voir ce qu'il y a d'antisémites dans leurs discours et leurs vidéos. Enfin, ça, c'est un truc très connu. Mais même en termes, on va dire, même sans aller jusque-là, il prône un retour au féodalisme, en fait. Alors là, c'est quand même assez grave d'un point de vue de l'émancipation, quoi. C'est vraiment un retour en arrière... et puis qui va émanciper personne, en fait. Après, dans la même vidéo, il raconte qu'il est favorable au port des armes. D'ailleurs, Yvan Blot renchérit. Oui, l'homme libre est armé. Donc, il cite l'exemple des États-Unis. Pour Chouard, c'est un exemple formidable à ce niveau-là. Les syndicats, les syndicalistes, ben, sont normalement exclus de son système de tirage au sort. Il met ça dans les bureaucraties, hein, au même titre que les banques, les hommes politiques, tout ça, c'est voilà, les syndicats, entre autres. Après, sur les médias, il envisage un système où les journalistes seraient payés comme des juges, des sortes de fonctionnaires, enfin, je ne sais pas, et puis que les médias seraient soumis à une autorité supérieure sous contrôle citoyen. Alors, voilà, bon, ben, on va dire que c'est la fin de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, puisque d'ailleurs, on peut penser que Chouard ne se contentera pas, d'ailleurs, de mettre les médias dominants sous la coupe, mais finalement, toute opposition, toute personne qui aurait un média quelconque sur lequel elle exprimerait des vues probablement différentes devrait être mise sous contrôle citoyen. Est-ce qu'Internet serait contrôlé tout? En tout cas, la question mérite d'être posée. Il ne l'aborde pas en détail, mais la question mérite d'être posée. Donc tout ça pour démonter un peu, parce que jusque-là, c'est un argument des partisans de Chouard de dire oui, il a des liens avec l'extrême droite, mais par ailleurs, ses théories sur la démocratie, sur le tirage au sort sont intéressantes, etc., etc. Non, elles ne sont pas intéressantes, enfin, voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que par exemple, à Nuit Debout, il y a eu pas mal, du coup, vous en avez fait l'expérience, mais à Paris aussi, il y a une commission entière qui est tenue par les partisans d'Étienne Chouard, par les citoyens constituants, qui est une association constituée, en fait. Et il y a une raison pour laquelle Chouard n'est pas venu dans les Nuits Debout. Bon, il y a la raison officielle qui craint, et sans doute pas à tort, de se faire jeter par des antifascistes. Ça, c'est la raison qu'il a évoquée publiquement. Mais il y a une autre raison, c'est-à-dire qu'il y a des partisans à lui qui lui disent sur Facebook « Ne viens pas, il faut absolument déchouardiser l'idée du tirage au sort ». puisqu'ils ont bien conscience quand même que Chouard est un personnage problématique, et donc il faut déchouardiser l'idée. Mais en fait, au fond, l'idée, voilà. Et puis après, il y a la question de qu'est-ce que c'est que cette problématique institutionnelle. On ne fait pas des institutions en dehors de tout rapport social. On peut toujours mettre une constitution avec un tirage au sort et d'autres dispositifs, mais si on ne change pas le rapport social de classe, etc., etc., en fait, ça revient sans doute à pisser dans un violon. Hein. On ne fait pas des constitutions ex nihilo et en dehors, effectivement, du champ de l'histoire. C'est complètement une vision aussi un peu absurde aussi de la chose, quoi.